Je vous propose donc aujourd'hui de reprendre et d'achever l'historique de la publication des archives royales de Marie que nous avons commencé lors du cours précédent. Nous avions, dans un premier temps, vous vous rappelez, suivi la pérégrination des tablettes depuis leur découverte sur le site de Marie, jusque dans les différents sites qui les ont abrités, à Paris et même dans les châteaux de la Loire, et puis finalement leur retour jusqu'à Dérèzor. Et nous étions arrivés au milieu de la deuxième partie de ce propos qui est consacrée à l'organisation de la recherche. Nous avions vu la façon dont les publications ont été organisées au fil du temps et nous sommes arrivés à la description des instruments de travail. On va s'y atteler tout de suite. Et puis, dans un dernier temps, nous esquisserons un bilan et des perspectives pour les recherches à venir. Les instruments de travail, ils sont nécessaires face à la profusion d'informations livrées par les archives de Marie. Il est clair que le régime du fichier individuel est aujourd'hui complètement dépassé. Seuls les instruments de travail collectifs peuvent et pourront permettre une exploitation intensive et rationnelle de ces très riches matériaux. Et leur forme, vous allez voir, a changé au cours du temps, mais du point de vue thématique, je dirais qu'il y a des bibliographies, des répertoires et des synthèses que nous allons examiner successivement. Plusieurs efforts ont été faits pour guider le lecteur dans la profusion des études consacrées au texte de Marie. Alors, en 1950, dans Studia Mariana, Agnès Piquet a publié la première bibliographie des études sur Marie et elle tenait à ce moment-là en 11 pages. Les choses ont bien entendu changé depuis lors. En 1975 a été publié dans la collection des archives royales de Marie un volume qui ne contenait pas de textes nouveaux, mais un ouvrage intitulé donc Index documentaire des textes de Marie, avec comme sous-titre Liste codage des textes, index des ouvrages de référence. Dans cet ouvrage, on avait une liste des textes publiés dans les archives royales de Marie, ou bien ce qu'on appelait les textes hors collection, publiés de manière dispersée dans des revues, etc. Et cette liste était tout à fait précieuse. L'utilité de l'indexation des ouvrages de référence paraît plus discutable puisqu'elle ne couvrait en effet que les dictionnaires et les recensions, c'est-à-dire les endroits les plus faciles d'accès, alors que les propositions dispersées dans le reste de la bibliographie, qui sont évidemment plus difficiles à trouver, ne figurent pas dans cet ouvrage. Et plus récemment, Jean-Georges Heinz et deux collaborateurs ont publié un ouvrage intitulé « Bibliographie de Marie, archéologie et textes 1933-1988 », un livre d'une utilité indéniable, mais qui est malgré tout limité par le fait que le classement est effectué par ordre alphabétique des auteurs, sans que des index thématiques viennent compenser ce classement. L'ouvrage a fait l'objet de mises à jour régulières dans la revue belge Acadica entre 1992 et 2000. Depuis lors, il n'y a pas de bibliographie spécifique. Vous avez des indications dans les bibliographies générales qui paraissent à intervalles réguliers dans la Kalschrift bibliographie d'Orientalia, d'une part, dans les registres de AFO, d'autre part, et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, vous avez les indications qu'on trouve maintenant sur le site d'Archibab. J'en viens maintenant au répertoire. C'est à l'honneur de l'équipe de Marie d'avoir eu, depuis les origines, le souci de fournir aux lecteurs des instruments de travail, et à cet égard, le volume 15 des Archives royales de Marie a été en son temps, donc 1954, un outil remarquable qui a été forgé par Jean Bottero et André Finet. Je ne sais pas s'ils étaient déjà amis avant d'avoir fait ce livre ensemble, mais je peux vous dire que par la suite, en tout cas, leur amitié a été indéfectible jusqu'au bout. Cet ouvrage donc, qu'ils ont élaboré en commun s'intéressait d'abord à l'écriture avec une paléographie qui était très utile, un syllabaire également, une liste des idéogrammes, et puis il y avait une liste de noms propres, donc noms géographiques, noms de personnes, noms de divinités, noms de moi, et enfin l'ouvrage s'intéressait à la langue avec un lexique qui était d'autant plus précieux qu'en 1954, il n'existait pas de dictionnaire acadien moderne. Le dictionnaire de von Soden n'était pas encore entamé et celui de Chicago devait en être à son premier volume, à moins que ce soit 1956. J'ai une petite hésitation sur la date du premier volume. En tous les cas, donc là, on avait en français un lexique limité, mais très utile. Alors la limitation à laquelle je viens de faire allusion, c'est le fait que cet outil ne portait que sur les 5 premiers tomes des Archives royales de Marie qui avaient été publiés sans index. L'idée dès le départ pour les ARM était de dire tous les 5 volumes, on fera un répertoire qui donnera tous les éléments au lieu d'avoir un index volume par volume. Pour les volumes 1 à 5, ça s'est bien passé. Par la suite, beaucoup moins bien. Donc la décision n'était peut-être pas si judicieuse que cela. Pourquoi ? Eh bien parce que ce répertoire analytique n'a été renouvelé qu'en 1979. Alors d'une manière cumulative, c'est-à-dire que ce répertoire analytique, deuxième volume, est reparti du tome 1, en allant jusqu'au volume 18 et en tenant compte des textes publiés hors collection, mais la masse de travail était telle que ce volume s'appelle 16.1, c'est-à-dire la première partie était consacrée au nom propre, et la deuxième partie, qui aurait dû reprendre les éléments consacrés au vocabulaire en particulier, a été annoncée, mais n'a jamais été fait. Et puis, à partir de 1979, chaque volume a été pourvu d'un index, aussi bien dans la série des Archives royales de Marie que plus tard dans les Florilegium Marianum ou encore dans les volumes de Marie. Il n'y en avait pas dans les 4 premiers, mais à partir du 5, il y a eu un index récapitulatif et ensuite un par volume. Mais il était clair que la masse d'informations était devenue telle que les instruments traditionnels ne suffisaient plus. Et donc, à partir de 1988, a été constituée une base de données informatique qui s'appelait Baobab. C'était base, et puis ensuite en anglais, Old Babylonian. Cette base permettait une consultation multiforme des textes publiés. Je l'ai décrite dans un article qui était paru dans Acadica en 1992. C'est une base qui a rendu de grands services, notamment parce qu'elle permettait de fabriquer automatiquement les index des volumes et surtout de les consulter de manière cumulée. Donc on n'était pas obligé de regarder volume par volume chacun des index. Mais elle avait deux gros handicaps qui étaient liés aux limites technologiques de l'époque. D'une part, elle était monoposte, il n'y avait qu'un ordinateur sur lequel on pouvait la consulter, et par ailleurs, elle était consultable seulement rue de la Perle, qui était le siège des ARM à l'époque, puisqu'il n'était pas question encore, au début des années 90, d'avoir des bases de données consultables sur Internet. On n'y rêvait même pas. Par ailleurs, cette base était encore de conception très simple. Donc voici la représentation graphique de sa structure. Et si vous la comparez avec la structure actuelle d'Archibab, vous voyez donc qu'on a rendu les choses plus complexes, non pas dans le but de les complexifier, mais dans le but d'avoir accès à de plus en plus de requêtes possibles. J'en reparlerai plus tard. Le glossaire d'ARM-15 n'a pas été tenu à jour donc, depuis 1954, je l'ai dit, et beaucoup des richesses lexicales des textes de Marie sont malheureusement absents des dictionnaires, puisque la plupart des volumes correspondant des deux grands dictionnaires de l'acadien, le HV et le CAD, ont été rédigés il y a un certain temps. Donc, à chaque fois, les volumes étaient limités par le corpus disponible au moment où la quête des données s'achevait. Alors, dans deux comptes rendus du CAD, début des années 90, j'ai essayé de montrer toutes ces richesses qui se trouvaient dans les archives de Marie, qui n'étaient pas dans les volumes du dictionnaire, donc avec un certain décalage dans le temps. J'aurais voulu continuer, mais le temps m'a manqué, et donc j'en suis resté à ces deux articles. En ce qui concerne par ailleurs la langue des documents retrouvés à Marie, dont on reparlera, une première synthèse avait été donnée par André Finet dans sa thèse de doctorat sur l'acadien des lettres de Marie en 1956, donc dans la foulée du répertoire ARM-15. Et depuis, il y a eu différentes études qui ont notamment essayé de préciser certains particularismes locaux. On a vu les bibliographies, on a vu les répertoires. On passe maintenant aux synthèses. Pour faire connaître les richesses des Archives royales de Marie, à l'évidence, il faut publier les textes, bien sûr, il faut permettre de s'y retrouver à travers différents instruments de recherche, mais ça ne suffit pas, il faut aussi donner des vues d'ensemble. À cet égard, les deux fondateurs des ARM avaient, chacun de son côté, annoncé des synthèses historiques. En 1958, André Parot avait promis une histoire du royaume de Marie. On trouve ça dans le volume 2.1 des volumes de MAM, Mission archéologique de Marie, donc c'est le volume qui est consacré au palais. Mais ce volume n'est jamais paru, et la dernière synthèse d'André Parot, qui s'appelait Marie capitale fabuleuse, qui est parue en 1974, est avant tout un bilan de son travail archéologique sur le site de Tel Hariri et non pas une histoire du royaume de Marie. Par ailleurs, Georges Dossin a donné des cours sur l'histoire du royaume de Marie. Alors j'allais dire ici même au Collège de France, les locaux dans lesquels nous nous trouvons n'existaient pas encore, mais c'était bien au Collège de France, donc il y a près de 60 ans, puisque c'était en juin 1958. Malheureusement, donc, il n'a jamais publié ses cours tels quels qui auraient pu être bien utiles à l'époque. Et donc, il est devenu de plus en plus difficile de s'y retrouver dans l'histoire complexe de Marie. Jean-Robert Cuper a publié un article de synthèse dans le Real Lexicon der Assyriologie, donc, qui est en français malgré le titre de l'article, qui date de 1989, mais c'est un article qui est extrêmement succinct vu le genre littéraire de l'encyclopédie dans laquelle cet exposé a été publié. Un peu plus tard, en 1993, eu lieu, également au Collège de France, un colloque qui s'intitulait « Marie, Ebla et les Hourites, 10 ans de travaux », donc la volonté de faire une sorte de point concernant 3 domaines de recherche étroitement liés. Et la publication des actes de ce colloque a inauguré une nouvelle série qui s'appelait « Amourou » en 1996. Dans le premier volume, on trouve des synthèses sur les routes et voies de communication, sur le commerce et encore sur les textes prophétiques. Le deuxième volume a réuni des études sur les administrateurs et le gouvernement provincial pour l'époque de Yasmaradou, puis pour l'époque de son successeur Zimrilim, et également 2 études complémentaires sur les relations internationales. Le volume 3 de la série Amourou a été consacré aux actes de la rencontre sur nomades et sédentaires qui s'était tenue à Paris en 2000 et où Marie occupait une place importante. Toujours dans la série des synthèses, mais cette fois en ce qui concerne la religion, Jean-Marie Durand a publié en 1995 en espagnol une synthèse sur la religion de Marie. Pourquoi en espagnol? Parce que c'était une commande de Gregorio del Olmo Lete pour un travail collectif important sur mythologie et religion de l'Orient ancien. Donc, tout était couvert sur les 3 millénaires, et la contribution de Jean-Marie Durand, qui aurait dû avoir une centaine de pages, finalement, a pris un volume considérable, puisqu'il y a au total à peu près 400 pages dans cette contribution. Il avait été convenu avec l'éditeur espagnol que la version française ne paraîtrait pas tout de suite, et puis finalement le temps a passé. Jean-Marie Durand a voulu réviser son texte pour incorporer des tas de données nouvelles, et finalement donc sa synthèse est parue en français en 2008. Et là encore, vous voyez que la taille de la contribution a augmenté puisque on a plus de 550 pages. Mais restait la question de l'histoire politique. Eh bien, la lacune que tout le monde ressentait a été comblée finalement en 2003 dans un volume de la série Florilegium Marianum, le volume 5, que j'ai publié avec Nele Ziegler. Au départ, il devait s'agir de contributions qui devaient être publiées dans Amourou 2, mais l'affaire a pris tellement d'ampleur et aussi du retard, ce qui fait que une publication séparée avait été finalement décidée. Donc un ouvrage qui aujourd'hui a 14 ans, qu'il faudra mettre à jour parce qu'il y a des éléments sur lesquels on a progressé, et heureusement, mais qui malgré tout tient encore bien la route. Et je voudrais terminer cette revue en présentant rapidement les contributions qui ont été publiées dans le supplément au dictionnaire de la Bible. Donc vous avez deux articles tel Hariri Mari. Il y en a un premier qui est consacré à l'archéologie et qui a été le fait de Jean Margueron, qui a été depuis d'ailleurs traduit en anglais. Et puis vous avez un deuxième ensemble, Tel Hariri Mari texte, et avec Jean-Marie Durand et un grand nombre d'autres collaborateurs, nous avons souhaité donner une vue aussi complète que possible, mais qui n'est pas exhaustive, donc avec 8 contributions pour l'essentiel. Malheureusement, ces contributions sont restées assez largement méconnues, du fait de la faible diffusion de cet ouvrage, sans doute. Elles n'ont pas perdu de leur intérêt, et je vous signale donc qu'elles sont désormais accessibles gratuitement sur le site d'Archibab, donc, où on peut les télécharger. Donc c'est une invitation à utiliser ces synthèses que je fais maintenant. Une autre façon de faire connaître les richesses des archives royales de Marie a consisté à publier des recueils de traductions. Jean-Marie Durand s'est lancé assez tôt dans une entreprise gigantesque qui consistait à rééditer les quelques 1300 lettres parues dans les premières décennies de l'aventure Mariotte, c'est-à-dire à peu près la moitié du corpus actuellement disponible. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que, à mesure que progressent les recherches, des interprétations nouvelles de certains passages se sont imposées. Parfois, l'état du texte permet des nouvelles propositions sans difficulté, mais il y a d'autres cas où il faut revoir les originaux pour vérifier que les nouvelles lectures proposées sont possibles, ce qui suppose donc ce qu'on appelle un travail de collation, revoir les tablettes des anciens volumes. C'est un travail que Jean-Marie Durand a entamé à Alep, puisqu'à l'époque, les tablettes déjà publiées étaient conservées dans le musée d'Alep, à partir des années 1980, et d'un travail auquel j'ai collaboré. Il y a beaucoup d'informations qui ont donné lieu à des articles, et il y a eu ensuite donc la publication de la traduction de toutes les lettres publiées dans les ARM avant 1988, c'est-à-dire avant les deux volumes d'ARM 26, et pour les textes hors collection, la date limite qui a été retenue, c'est 1993, donc avant Marie 7. Donc 3 volumes intitulés « Documents épistolaires du palais de Marie », premier tome paru en 1997, deuxième en 1998 et le troisième en 2000, avec en note la transcription des passages collationnés. Il n'était pas question de donner une réédition complète des documents. Et puis le fait que ces lettres ont été regroupées thématiquement, au total en 15 chapitres, avec des introductions conséquentes qui constituent autant de synthèses tout à fait précieuses. Par la suite, deux auteurs américains ont éprouvé le besoin de faire connaître les richesses des lettres de Marie au public anglophone. Ça a été d'abord Wolfgang Heimpel, dans un ouvrage qui m'a laissé insatisfait. Il s'agissait avant tout pour lui de traduire en anglais les lettres de 3 volumes, ARM 26.1, ARM 26.2 et ARM 27, et avec une centaine d'autres lettres complémentaires. Et puis le tout était précédé d'une introduction générale et aussi d'un essai très développé de reconstitution des événements des trois dernières années de règne de Zimri-Lim. Alors, c'est un ouvrage qui, par hasard, est paru en 2003, donc au moment même où paraissait Florilegium Marianum V. Et le constat est clair, du point de vue de la reconstitution de l'histoire politique, Heimpel n'a pas dépassé les introductions qu'on trouve dans les volumes dont il traduisait les lettres, alors qu'il était possible d'aller plus loin. Et surtout, ce que j'ai beaucoup regretté dans le compte-rendu que j'ai publié de l'ouvrage, c'est le fait que les lettres ont été reprises dans l'ordre dans lequel elles ont été publiées, alors que c'était une belle occasion de fusionner, au contraire, les différents dossiers qui avaient été publiés de manière séparée, parce que chaque auteur était responsable de tel ou tel dossier, mais lui reprenant le tout par la suite, il était évident qu'il aurait dû rebattre les cartes, si je puis dire, pour montrer les lettres de X, Y et Z, qui avait trait au même événement, et malheureusement, il ne l'a pas fait, donc c'est un peu dommage. Beaucoup plus réussi, me semble, le livre de Jack Sasson, qui constitue en quelque sorte le couronnement de décennies d'études sur Marie. Ce volume se distingue des volumes de La Lapo de Jean-Marie Durand par le fait que Jack Sasson n'a pas hésité à découper les lettres en fonction des sujets traités. Et l'ensemble étant présenté thématiquement, vous pouvez avoir une partie d'une lettre qui va être présente dans tel chapitre et une autre partie dans un autre. Pour des raisons qui se comprennent bien, Jean-Marie Durand avait refusé cette possibilité parce qu'il voulait que le lecteur puisse voir précisément comment, dans une même lettre, un gouverneur de province pouvait commencer par parler des récoltes et puis brusquement ensuite donner au roi communication d'une prophétie, par exemple. Il lui avait semblé dommage de faire éclater des documents qui avaient leur propre logique, en quelque sorte. Mais c'est aussi la raison pour laquelle Jack Sasson a pris un parti différent, de façon, puisqu'il y a plusieurs options possibles, eh bien, autant explorer les différentes voies. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients, mais l'ensemble constitue un volume tout à fait riche et attrayant. Chemin faisant, d'ailleurs, Jack Sasson ne s'est pas interdit d'utiliser aussi des documents administratifs, même si le sous-titre de son ouvrage est « Une anthologie de lettres paléo-babyloniennes ». On va revenir maintenant aux instruments de travail. Je vous ai montré à quel point la situation dans le courant des années 2000 était devenue intenable, et c'est la raison pour laquelle le programme Archibab a été lancé en 2008 avec le soutien de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, dans le cadre de l'appel d'offres Corpus et outils de la recherche en sciences humaines. Donc ça, l'appel d'offres est arrivé exactement au moment où nous sentions prêts pour lancer ce genre d'opération, et l'aide de l'ANR, je dois dire, a été essentielle, d'abord dans le cadre de ce programme pendant 3 ans, et ensuite on a eu un renouvellement au titre de ce qu'on appelait à l'époque les programmes blancs pour 4 ans. Alors il y a eu une première année de mise en route, et ensuite la base de données a été accessible à partir du début de 2010 et avec des fonctionnalités qui ont été étendues progressivement. Archibab a bénéficié des limites dont j'ai parlé tout à l'heure de notre base interne Baobab. Un des problèmes que Baobab ne savait pas régler, c'était la question des raccords et la question des republications. Et donc, ça posait un problème. Lorsqu'une tablette avait été éditée dans un volume ancien des ARM et était rééditée dans un volume de Florilegium Marianum, il fallait manipuler la vieille fiche, créer la nouvelle, et du coup, on avait 2 fiches pour le même texte, donc le total des textes devenait faux, c'était pas satisfaisant. Donc ça, c'était une des choses qu'on a voulu éviter. Et puis, par ailleurs, lorsque vous avez 2 fragments qui ont déjà été publiés, donc avec chacun son numéro, eh bien, lorsque un raccord était fait entre ces 2 fragments, là aussi Baobab ne savait pas comment s'y prendre, et ceci donc a fait partie des préoccupations du départ. Alors je vais prendre l'exemple d'une lettre prophétique très célèbre, parce que ça a été la première lettre qui a été publiée. chez Georges Dessin et Lodz, j'ai oublié son prénom, qui ont publié ce texte dans les Mélanges Robinson en 1950. Donc il s'agissait d'un fragment numéroté A1121. Et donc, si vous demandez à Baobab ce numéro-là, eh bien, vous allez avoir un texte qui va être beaucoup plus complet. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'entre-temps, au fragment A1121 a été rejoint un deuxième fragment A2731 qui avait été publié par Dessin dans les actes de la rencontre assyriologique en 1966. Et lorsque vous regardez l'édition, donc la chose est bien marquée, on voit qu'il y a le fragment 2731 qui a été publié par Dessin en 66. Vous voyez aussi que c'est en 1984 que Bertrand Laffont a publié le joint des deux, ce qu'indique le signe plus, et puis le texte a été réédité donc, dans Florilegium Marianum 7 avec le numéro 39. Donc tout cela est indiqué dans la notice de catalogue du texte, et vous avez en plus une photographie qui est disponible, et si vous cliquez sur le lien, eh bien, vous avez accès à la photographie du document, et on voit très bien sur la photographie, en effet, le raccord qui a été opéré entre deux fragments. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans le cours précédent sur l'importance des joints entre les documents. Ici, on a un cas particulièrement intéressant, bien entendu. Et le système est fait de façon telle que si quelqu'un relit le vieil article de Dessin de 1966, dans lequel le texte est cité comme 2731, donc il va rentrer le numéro A2731 et il aura accès à la fiche mise à jour directement. Et d'autre part, vous voyez que le texte n'est comptabilisé qu'une fois et non pas plusieurs en fonction des rééditions et des raccords. Donc ça, c'était un des desiderata qui a été réglé d'une façon satisfaisante. Autre aspect, c'est la question des répertoires. Donc je vous ai dit que à partir d'ARM 14, chaque volume dans la série des Archives royales de Marie a été pourvu d'un index, mais le problème évidemment, c'est que les années passant, il fallait consulter un nombre d'index croissant, il y en avait un par volume des Archives royales de Marie, des Florilegium Marianum, dans la série Marie, plus tous les textes publiés hors collection qui eux n'étaient indexés nulle part. Et donc, il fallait passer un temps considérable à regarder tout cela. Eh bien, désormais, les recherches sont possibles sur le contenu même des textes. On peut faire des recherches soit par chaîne de caractères, soit par entrée de dictionnaire ou avec les noms propres, dans la mesure où les documents sont lématisés. Ce n'est pas encore le cas de tout, je donnerai des indications chiffrées tout à l'heure, mais il y en a quand même pas mal. Et je voudrais montrer un exemple de ce que permet Archibab à l'aide de quelque chose qui est arrivé récemment dans le dernier numéro de la revue d'assyriologie. Nele Ziegler a publié une lettre de Akbar Hamou dans laquelle celui-ci proteste de sa fidélité au roi de Marie Zimrilim, et il écrit « À présent, en ce qui me concerne, si jamais on peut apporter une quelconque preuve contre moi à mon seigneur, qu'on me, et puis vous avez une forme du verbe « charamoum » par le milieu avec une si « chicharoum ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce verbe charamoum ? Si vous regardez les dictionnaires, vous voyez que sont attestés les sens de couper, découper. Donc ça va bien. Mais aucun dictionnaire ne documente cette action effectuée avec une scie, donc au sens propre, scier. Et le contexte ici conduisait Nele Ziegler à supposer qu'on avait le verbe acadien signifiant scier. Et la question était de savoir, est-ce que cet exemple est isolé ou est-ce qu'il y a des parallèles ? Eh bien, Archibab donne instantanément la réponse. Quand on regarde charamoum, on voit que l'entrée s'est taillée, hein, donc le vocabulaire est donné sous une forme très très concise. Et ensuite, quand on demande les références, eh bien, on voit qu'il y a un texte de ARM 32 dans lequel on a la description d'une scie, donc on a deux mines de cuivre pour une scie qui possède littéralement deux faces lorsque on a découpé, scié une pierre qui s'appelle la pierre Soum, sur la nature de laquelle je n'ai pas besoin de m'étendre dans ce contexte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une scie à deux faces ? Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on appelle une scie passe-partout, c'est-à-dire qui est tenue par une poignée à chaque extrémité par deux personnes qui se font face. Donc, il y a bien deux faces, c'est leur façon de décrire cela. Et ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de scie passe-partout est un outil traditionnel des tailleurs de pierre, et donc ça marche parfaitement bien, et on a bien le texte pour le verbe pour, qui désigne le fait de scier. Alors, pour trouver cette référence, il aurait fallu auparavant des heures de dépouillement, et Archibab a donné la référence en moins d'une seconde, enfin le temps de taper, et c'était fait. Alors, ça suppose bien entendu beaucoup de travail en amont, mais au moins ce travail, il est fait une fois pour toutes, et après ça, permet de répondre à des tas de requêtes. Et on a là un bon exemple de la richesse des textes de Marie. Pourquoi ? Parce qu'on a à la fois une donnée importante pour la culture matérielle, l'existence de grandes scies passe-partout qui étaient destinées à la découpe de pierres. C'est quelque chose dans l'histoire des technologies qui n'est pas si bien documenté que cela. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est l'emploi métaphorique de ce vocabulaire dans la lettre en question. Je vous rappelle, il s'agit d'une auto-malédiction. Si jamais on peut apporter une quelconque preuve contre moi à mon Seigneur, que l'on me scie par le milieu avec une scie chacharum, c'est un supplice qui est d'ailleurs attesté par des manuscrits médiévaux, par exemple à propos du martyr de Saint-Cyr dans un très beau devant d'autel du XIIe siècle que vous pouvez éventuellement admirer au Musée national d'art de Catalogne à Barcelone, qui est un musée absolument superbe, n'est-ce pas, et qui montre une scie passe-partout et avec le malheureux Saint-Cyr qui est découpé exactement selon la technique, si l'on ose dire, qui est invoquée par Akbahamou dans sa lettre à Zimrilib. Mais Archibab peut faire bien d'autres choses encore grâce à la combinaison entre les métadonnées et les données qui autorisent toutes sortes de requêtes. Je vais vous donner ici un autre exemple qui est celui du devin Askoudoum. En 2010, des collègues anglaises m'ont demandé de rédiger un article général sur la figure de ce devin qui avait l'intérêt d'être attesté à la fois sous le règne de Yasmaradou et sous le règne de son successeur, le dernier roi de Marie, Zimrilim. Et dans la bibliographie, Jean-Marie Durand et Jack Sasson avaient considéré que, au début du règne de Zimrilim, Askoudoum avait cessé de pratiquer lui-même la divination parce que, étant le beau-frère du roi, eh bien, il était devenu un dignitaire très important et donc il ne se mettait plus les mains dans le sang. Je crois que c'est à peu près l'expression que Jack Sasson avait employée. Et cette affirmation m'avait paru devoir être regardée de près. Alors, on reviendra là-dessus dans les cours prochains, les lettres, malheureusement, ne sont datées que de manière exceptionnelle. Mais on y trouve des allusions qui permettent souvent de les dater chronologiquement. Et donc, pour moi, le problème était de repérer dans la correspondance d'Askoudoum, qui fait quand même 83 lettres, les passages dans lesquels il était question de divination, et il fallait distinguer entre l'emploi du verbe qui signifie « prendre des présages » au système 1, lorsque c'est le sujet qui le fait, et au système 3, qui est le factitif, donc lorsqu'on dit « j'ai fait prendre des présages ». Eh bien, j'ai fait ça à la main, ça m'a pris pas mal de temps. Aujourd'hui, j'ai refait le test avec Archibab. Il suffit de demander les lettres qui ont comme auteur à Scudum, et puis ensuite on dit on veut chercher dans le corpus défini précédemment les lignes qui contiennent le mot tertum, donc qui est le mot pour présage, et là on obtient une liste avec les lignes qui ne donnent que les lignes intéressantes, et puis si on est intéressé par le texte on clique et on rentre dans le document et on voit un certain nombre de références dans lesquelles il y a le système 3, donc faire prendre les présages ou chez Pich, et puis au contraire des exemples dans lesquels on vous dit épêche, j'ai pris les présages, je prendrai les présages, pardon, ou bien épouche, j'ai pris les présages. Et ensuite, il suffit de regarder dans les lettres le contexte et on peut voir, dans certains cas, pas toujours, si la lettre appartient au règne de Yasmaradou ou si elle appartient au règne de Zimrilim. Et j'ai eu la satisfaction, après mon enquête manuelle, puisque à l'époque, en 2010, Archibab ne permettait pas encore de faire ça, j'ai eu la satisfaction de voir qu'il y avait des cas où Askoudoum procédait en personne à la prise de présage sous Zimrilim, et donc la différence qui avait été introduite entre la période avant Zimrilim et après Zimrilim, Askoudoum ne prenant plus lui-même de présage une fois qu'il était devenu un haut dignitaire, eh bien cette ligne de démarcation était en réalité ne tenait pas. Alors si on fait un bilan chiffré, on voit qu'actuellement, 6533 textes de Marie ont été entrés sur les 8984 qui ont été publiés, donc à peu près les trois quarts du corpus. Mais la totalité des 2559 lettres est accessible. Alors, tout n'est pas encore lemmatisé. Il faut souligner par ailleurs qu'il reste à traiter les textes qui sont connus par des citations dans de nombreuses publications, lettres donc qui ont été citées, dont un extrait a été cité, mais qui n'ont pas été intégralement publiées. Le travail a été fait en partie, mais il reste beaucoup à faire. On a donné, bien entendu, la priorité aux textes intégralement publiés. Par ailleurs, il faut souligner le fait que la base Archibab ne se limite nullement aux archives de Marie. En ce qui concerne la Haute Mésopotamie, vous avez aussi les archives de Shemshara, de Rima, de Leylan, de Toutoul, de Terka, etc. Et puis, vous avez la totalité des textes paléo-babyloniens, donc jusque dans la Mésopotamie méridionale. Et le fait d'avoir refusé de tronçonner le corpus paléo-babylonien a révélé son intérêt, parce que c'est comme ça, par exemple, qu'on peut repérer des toponymes qui sont les mêmes dans le sud de la Mésopotamie et dans le nord. Si vous avez des bases de données séparées, vous risquez de passer à côté. Et puis, où faire passer la limite entre les textes, c'est souvent très artificiel. Par exemple, dans les archives de Rima, vous avez des lettres qui ont été écrites en Haute Mésopotamie, mais vous en avez d'autres qui ont été écrites depuis la Babylonie. Donc, faut-il faire exploser des corpus qui ont été trouvés ensemble ? Bien évidemment, non. Et donc, je pense que l'idée d'avoir la totalité des textes paléo-babyloniens dans Archibab est une bonne idée. François Ier, fondateur du Collège de France, aurait dit en débutant les travaux du château de Chambord « Si l'on se préoccupait de l'achèvement des choses, on n'entreprendrait jamais rien ». Alors, devant la masse des textes à traiter, hein, l'ensemble du paléo-babylonien, c'est quand même presque 33 000 textes. Il y en avait moins quand on a commencé, on était à 28 000. Donc, en plus, on passe notre temps à courir derrière les nouveautés. Donc, il y en a quand même en moyenne 500 par an, donc ça fait beaucoup. Et donc, on a décidé de faire de cette phrase la devise du programme Archibab. Donc, on l'a mis sur la page d'accueil du site. Et en attendant que Archibab soit complet, je ne sais pas si ça arrivera jamais, mais le château de Chambord, ceux d'entre vous qui l'ont visité savent qu'il y a des endroits de l'époque d'Henri II où il y avait des statues dans l'escalier, je ne sais plus quelle aile c'est, mais j'ai oublié maintenant, où on voit la pierre qui a été préparée et les atlantes qui avaient été programmées n'ont jamais été sculptées. Donc j'espère qu'Archibab ira jusqu'au bout. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un effort collectif très important depuis 2008, donc qui a mobilisé plus d'une quinzaine de personnes à Paris. et qui par ailleurs s'appuie sur la collaboration directe ou indirecte de nombreux autres collègues en province ou à l'étranger. On a tout un réseau de gens qui nous, notamment, nous communiquent les versions électroniques des textes qu'ils publient. Ceci nous aide bien évidemment beaucoup. Alors, il est temps de passer à dernière partie de cet exposé réparti sur deux cours, bilan et perspective des recherches. Je voudrais en effet pas en rester aux souvenirs et vous donner l'impression de vous livrer des souvenirs d'anciens combattants. L'aventure continue et donc je voudrais faire un bilan qui à la fois permette de voir ce qui a déjà été fait et d'esquisser ce qui reste à faire. Retracer aussi le développement d'études thématiques récentes et présenter les prochaines publications et un certain nombre de recherches en cours. Donc le bilan chiffré, sur les quelques 20 000 tablettes dont Parot avait signalé la découverte, et je vous ai dit à quel point ce chiffre était approximatif, il y en a une partie qui ne sont que de petits fragments, de sorte que je dirais que le chiffre utile se situe sans doute plutôt du côté de 13 000 si on tient compte des textes réellement exploitables et aussi du phénomène des raccords dont je vous ai dit qu'il diminuait bien entendu le nombre de textes. Alors où est-ce qu'on en est de la publication ? Eh bien, Archibab nous a donné un décompte précis, et ça a été lorsqu'on a commencé à la fin des années 2009, c'était la première fois qu'on avait un décompte à la tablette près pour savoir ce qui avait été intégralement publié. Donc, je l'ai dit, ça fait 8984 textes intégralement publiés et des centaines d'autres qui ont fait l'objet de citations plus ou moins extensives. Donc, on peut dire qu'on est à peu près aux deux tiers de la publication. Et c'est une œuvre collective qui a impliqué une cinquantaine de chercheurs dont on peut dire qu'ils sont répartis sur quatre générations. Alors on peut dresser, je me situe dans la troisième, et on peut, Thureau d'Engin étant la première, et puis ensuite il y a une génération intermédiaire, et il y a encore une génération plus jeune derrière. Donc la liste chronologique des contributeurs, avec leur première année de publication, donne quelque chose d'impressionnant. Donc je vous l'avais dit, c'est François Thureau d'Engin qui a été le premier à publier un texte de Marie en 1936, suivi rapidement par Georges Jossin, Charles François Jean, etc. Et puis, donc, je vous avais dit que cette équipe était rapidement devenue franco-belge puisque Georges Jossin avait intégré ses élèves Jean-Robert Cuper d'une part, André Finet d'autre part, et par ailleurs, il y a eu des Français comme Maurice Birot ou Jean Bottero qui ont été intégrés dans la deuxième génération. Et à partir de 1992, eh bien, l'équipe de Marie a élargi son recrutement avec des contributions d'assyriologues venus d'Italie, du Danemark, d'Allemagne, de Suisse, d'Autriche, des Pays-Bas, d'Espagne et de Russie. Alors, bien entendu, le nombre de textes publiés par chacun de ces auteurs a été très variable. La palme revenant à Jean-Marie Durand, qui a publié jusqu'à ce jour plus de 1430 textes, et je ne parle pas de ceux qu'il s'apprête à publier, suivi par Maurice Birot, dont malheureusement le chiffre est maintenant fixe, 1390, ce qui était évidemment quelque chose de tout à fait important. Autre remarque qu'on peut faire grâce aux données fournies par Archibab, c'est des considérations sur le rythme de publication des textes. Eh bien, on peut dire en gros que jusqu'en 1979, donc j'ai pris cette date parce que c'était celle du volume ARM 17, qui marquait une sorte de césure, il y avait 3480 textes qui avaient été publiés, donc ça faisait une moyenne de 79 textes par an. Alors que de 1980 jusqu'à 2016, puisque l'année 2017 est en cours et qu'on ne peut pas encore faire de statistiques, on a eu 5484 textes publiés, ce qui donne 152 textes par an en moyenne. Donc on peut dire que le rythme a presque doublé. Et si on fait actuellement la moyenne, donc ça veut dire qu'on est avec à peu près une tablette tous les deux jours. Dit comme ça, c'est quand même impressionnant. Par ailleurs, il y a eu un développement thématique des études. Alors, je n'aurai pas le temps, dans le quart d'heure qui reste, de vous dresser un tableau complet, bien entendu, mais je voudrais retenir quelques aspects récemment développés, la culture matérielle, la géographie historique, la comptabilité et les études linguistiques. En ce qui concerne la culture matérielle, c'est une thématique qui est encore à la mode actuellement, mais qui avait, en ce qui concerne les archives de Marie, donné naissance déjà à des séries d'articles parus dans la revue Marie et dans la revue d'Assyriologie dès 1990. Donc il y a eu 5 articles sur des aspects très différents concernant l'orfèvrerie, concernant les moyens de transport, avec le Nubalum qui finalement s'est révélé être une sorte de palanquin, des techniques de contrôle également, concernant donc le rôle des ébooms, les méthodes de pesée, et puis des aspects matériels, mais plus immatériels aussi, comme les parfums. Par la suite, Jean-Marie Durand a lancé un programme intitulé « Dictionnaire babylonien de Paris » qui avait, au départ, je dirais, une idée triple. La première, c'est de combler une lacune à laquelle j'ai déjà fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire permettre l'accès aux richesses des textes de Marie qui ne sont pas accessibles par les dictionnaires, et en particulier par le dictionnaire de Chicago, qui se veut une espèce de thésaurus en donnant beaucoup de citations. Eh bien, il est évident que quand vous regardez le volume H publié en 1956, pour Marie, vous n'avez quasiment rien, et aujourd'hui, vous avez énormément de données qui sont disponibles. Deuxième idée, c'était par rapport à l'expérience du CAD qui traitait la matière de manière alphabétique, eh bien faire au contraire des volumes qui aient une unité thématique, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent les problèmes de traduction qu'on a ne peuvent être réglés que si l'on regarde tous les mots qui ont trait au même champ sémantique. Et c'est la raison pour laquelle donc, les trois volumes ont eu des problématiques bien ciblées. Et puis, la dernière idée, c'était de contribuer à l'étude de la culture matérielle par le biais des textes, et en particulier en donnant accès à toute une partie de la réalité qui n'a laissé quasiment pas de traces repérables par les fouilleurs. Si on regarde dans le palais de Marie ce qu'on a trouvé en matière de vaisselle précieuse, par exemple, il y a des plats, quelques plats en céramique, mais c'est tout. Tout le reste, comme c'était précieux, précisément, ça a été emporté par les Babyloniens au moment du pillage du palais. Mais il y a eu des inventaires qui ont été faits. Alors, ces trois volumes, donc à l'intérieur des Archives royales de Marie, ont formé une sous-série, les MDBP, matériaux pour le dictionnaire de babylonien de Paris. Premier volume n'est paru qu'en 2009, en fait, donc ça n'a pas été le premier chronologiquement. C'est celui que Jean-Marie Durand a consacré aux habits et aux textiles. C'est un domaine où, effectivement, la reconstitution de la culture matérielle est particulièrement difficile, faute de données archéologiques, et du fait que les données proprement philologiques ne sont pas commodes et ne peuvent pas non plus s'appuyer sur tellement d'indications iconographiques. Il y a eu aussi donc, le volume de Michael Guichard sur la vaisselle de luxe, j'y ai fait allusion tout à l'heure, et puis un troisième volume dû à Ilya Ripov sur le vocabulaire de la métallurgie et la nomenclature des objets en métal, donc vaisselle précieuse exclue, qui est paru en 2012. Et on peut considérer que certains volumes des Florilegium Marianum s'inscrivent dans la même démarche, en particulier celui d'Antoine Jacquet, Florilegium Marianum 12, qui étudie systématiquement tout le vocabulaire des sacrifices, rites, gestes religieux, etc. Deuxième champ de recherche, la géographie historique. Il y a eu trois ouvrages qui ont été publiés en décembre dernier, avec comme idée de procéder à des études complémentaires de la manière suivante. D'abord, la complémentarité entre l'archéologie et l'épigraphie. les archéologues repèrent lors de leur prospection et fouillent des telles dont ils ne connaissent au départ pas le nom. À l'inverse, les épigraphistes ont dans leurs textes des toponymes qu'ils ne savent pas forcément toujours localiser précisément. Et donc l'idée, c'est de rapprocher les deux types de recherches pour identifier davantage de sites ou, à l'inverse, localiser davantage de toponymes. Mais même en ce qui concerne la documentation textuelle, il est important d'opérer des regroupements. Pourquoi ? Parce que en ce qui concerne la haute Mésopotamie, vous avez des toponymes qui apparaissent dans les textes des archives de Marie et plus largement les textes de haute Mésopotamie dans la première moitié du deuxième millénaire. Et puis vous avez les mêmes, en bonne partie les mêmes toponymes qui apparaissent, mais pas seulement les mêmes d'ailleurs, qui apparaissent dans la deuxième moitié du deuxième millénaire, dans les textes médio-assyriens, notamment ceux d'Achour, de Dur-Kathlimou, etc. Eh bien, il est intéressant de traiter ensemble ces données. Donc cette recherche a été effectuée dans le cadre de deux projets franco-allemands successifs qui ont été soutenus à la fois par l'ANR du côté français et par la DFG côté allemand, IGOMES d'abord, puis TextelSEM, qui ont été dirigés par Nelle Ziegler et Eva Kantschik-Kirschbaum. Et donc vous avez ces trois volumes qui ont été publiés en décembre dernier et qui sont accessibles sur Open Edition Books Collège de France de manière gratuite en HTML. Donc, lorsque on veut trouver des références, si on n'a pas les livres sous la main, eh bien, par Internet, on peut le faire. Et j'ajoute que, aussi bien dans les livres imprimés que dans les... sur le site internet, vous avez des cartes en couleur qui sont à la fois belles et précises et donc très précieuses. Troisième thématique, la comptabilité. Cette étude s'est faite notamment dans le cadre de ce qu'on appelle un PIX qui s'appelait Comptabab, hein, pour comptabilité babylonienne. Qu'est-ce que c'est qu'un PIX ? Dans le jargon du CNRS, c'est un programme international de coopération scientifique. Et donc, il a réuni des Français, donc à Paris avec Nelle Ziegler, à Brest avec Grégory Chambon, et puis des collègues russes sous la direction de Ilya Aripov. Alors, c'est un programme qui a donné lieu à plusieurs rencontres en Russie, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et en France, à Brest et à Paris. On peut en trouver l'annonce sur le site de l'UMR 71-92 en tapant dans la recherche simplement Comptabab et on a les informations. Et ce programme va aboutir à plusieurs ouvrages, mais il y a déjà un numéro de la revue en ligne Comptabilité, paru en 2016, dans lequel on a un certain nombre de contributions qui ont été réalisées dans le cadre de ce programme de recherche. Dernier point que j'ai prévu d'évoquer, donc, c'est la question de la langue et de l'écriture. Avec la question de la réforme de l'écriture qui est intervenue sous Yardounlim et qui a été un moment très important dans l'histoire de l'écrit dans la vallée du Moyen-Euphrate. J'ai fait le point sur cette question il y a 5 ans maintenant. Et je voudrais également mentionner ici le travail en cours de Marine Béranger qui a adapté pour la langue acadienne un logiciel de textométrie qui s'appelle TXM et qui permet, à partir d'exportations effectuées par la base de données Archibab au format adéquat, d'obtenir toutes sortes d'informations quantitatives à partir desquelles on peut mieux exploiter les données des textes d'un point de vue linguistique. On a des statistiques sur l'emploi du vocabulaire, également sur le syllabaire, sur les noms propres, c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur et qui va certainement se développer dans les années qui viennent. Un troisième point dans les perspectives qu'il me faut aborder maintenant, donc, c'est la question des prochaines publications. Si on regarde le rythme, il est vrai qu'après la publication de ARM32 en 2012 et de FM14 en 2014, les années 2015 et 2016 ont marqué une sorte de ralentissement dans la publication des textes de Marie. Alors, il y a eu des textes nouveaux qui ont été publiés dans des articles ou dans des contributions à divers ouvrages collectifs, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun livre nouveau qui soit paru. Pourquoi ? Eh bien, parce que dans ces deux années-là, on a mis avant tout l'accent sur la constitution de ces outils de recherche. J'ai parlé d'Archibab, j'ai parlé du programme MTT. Tout ça, effectivement, demande du temps, et donc on ne peut pas tout faire en même temps. Mais, cela dit, vous avez pas moins de 7 auteurs qui travaillent actuellement à des ouvrages qui sont sur le point d'être publiés ou dans un état très avancé de publication. Grégory Chambon va publier les archives de l'intendant Iloukane, qui concernent les réserves de grains. Nele Ziegler, la correspondance d'Ishmael Dagan, reprenant des textes déjà publiés et surtout donnant de nombreux inédits. Hervé Reculot, des textes relatifs à la gestion des terres agricoles. Michael Guichard, la correspondance d'Itourasdou lorsqu'il était gouverneur de Narour. Jean-Marie Durand va publier tout un recueil de textes qui permet de mieux connaître ce qui s'est passé au moment où Zimrilim a pris le pouvoir. Lionel Marty doit publier des documents relatifs à la viande. Jean-Marie Durand doit publier les textes qui était traditionnellement appelé Chakanaku, donc antérieur à cette modernisation de l'écriture qui a été opérée à l'époque de Yardounlim. Et moi-même, je dois publier un volume sur la correspondance à l'époque amorite, écriture, acheminement et lecture des lettres d'après les archives royales de Marie. Ah ah, et oui, c'est le thème du cours de cette année, parce que j'espère bien que, en ayant déjà consacré mon séminaire à cette question et en faisant ce cours avec vous, eh bien, j'espère bien que l'ouvrage que j'annonce depuis longtemps pourra bien avancer. Et dans mon cours, vous verrez que je ferai beaucoup de citations d'inédits qui seront intégrées dans cet ouvrage des Archives royales de Marie. Donc ça fait des centaines de textes supplémentaires qui devraient être publiés dans les 2 ou 3 prochaines années. Et puis, il y a encore d'autres livres qui sont déjà programmés. Nele Ziegler, après la correspondance d'Ishmael Dagan, publiera d'autres lettres du temps de Yasmaradou. 2 volumes sont prévus. Je dois, depuis beaucoup trop longtemps, publier les textes juridiques, à la fois rééditer ceux qui ont été publiés, parce qu'on peut faire beaucoup de progrès, et en même temps publier pas mal d'inédits. Je dois aussi publier les textes du temps de Yardounlim et Sumuyamam, c'est-à-dire ceux qui sont complémentaires de ceux de l'époque dite Chakanaku, publiés par Jean-Marie Durand. Donc tout ça nous donne beaucoup de grains à moudre, et il y a encore d'autres projets, mais je me limiterai à cette dizaine de titres. Alors, je dois ici vous faire une confession. On a eu une illusion au début des années 1980. On pensait qu'avec le temps, la publication des tablettes irait de plus en plus vite. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on dispose d'outils de travail dont on ne rêvait pas à cette époque-là, et encore moins dans les années 50 ou 60, quand il n'existait aucun dictionnaire. Mais il faut aussi souligner le fait que la complexité est devenue de plus en plus grande, et donc le temps que nécessite la compréhension fine d'un texte supplémentaire augmente avec le nombre de textes, évidemment. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles de nombreuses lettres sont publiées isolément sous forme d'articles, parce que le commentaire destiné à éclairer le contenu devient de plus en plus volumineux. Et donc, finalement, il n'y a pas une accélération de la publication des textes comme on avait imaginé. Un dernier point qui, malheureusement, est triste, c'est, mais je ne peux pas éviter d'en parler, c'est la question de la situation en Syrie. Quand on la connaît, on a guère d'espoir qu'un accès direct aux originaux soit possible rapidement. Et donc, il faut à l'heure actuelle travailler sur photos. Heureusement, une couverture quasi complète a été réalisée avant le retour des tablettes en Syrie. J'y avais déjà fait allusion. Donc, on a d'abord, avant 1999, pris des photos avec un appareil argentique moyen format. Et puis, à partir de 1999, on a utilisé un appareil numérique haute définition. C'était un des premiers appareils réflexes numérique et qui est resté pendant des années un des meilleurs de sa catégorie. C'était le cadeau d'arriver au Collège de France de Jean-Marie Durand. La tradition consiste à donner au professeur quelque chose qui l'aide dans ses recherches. Et à l'époque, ça coûtait 200 000 francs. C'était gigantesque. Hein. Aujourd'hui, ça fait rire, mais c'était comme ça. Et le problème, c'est évidemment de traiter toute cette photothèque. Et j'ai lancé l'année dernière un projet de 2 ans qui a été financé par PSL, donc l'Université Paris Sciences et Lettres, qui est une structure à laquelle le Collège de France est associé, programme qui s'appelle Digibarchi et qui a notamment pour but de permettre d'avoir un meilleur accès à cette photothèque. Donc on a numérisé les négatifs jusqu'à présent gardés dans des classeurs, dans un coffre anti-incendie. Il faut aussi faire, bien entendu, le traitement et le montage des photos qui ont été prises avec l'appareil de photo numérique. Et ensuite, il faut tout mettre en ligne. Et ça permet donc d'avoir un accès immédiat aux photographies qui ont été prises pour tous les textes qui ont été publiés. Alors, en conclusion, je terminerai en... soulignant, alors le fait, un espoir aussi qui est né du fait que certaines de ces photos mises en ligne ont permis à certains de nos collègues de faire des raccords à partir des photographies et non plus à partir des originaux. Ceci, évidemment, est quelque chose d'extrêmement encourageant, puisqu'on voit que ce programme que nous avions lancé permet d'avoir des retombées importantes en termes de recherche. Ça ne, bien entendu, ça ne vaudra jamais la manipulation des originaux, mais quand même, ça permet de se dire que nous ne sommes pas complètement coincés, si je puis dire. Alors, je voudrais terminer en disant donc que cette aventure des Archives royales de Marie, elle est pas commune. Près de 9000 tablettes publiées en 80 ans, donc ça veut dire, si on prend la totalité du temps et des publications, un peu plus de 112 tablettes par an en moyenne, donc une tous les 3 jours. Il faut bien dire que tout chauvinisme mis à part, il n'existe ni n'a existé en assyriologie aucune entreprise scientifique d'ampleur comparable. Par ailleurs, il ne faut pas s'en tenir à l'aspect quantitatif de ce projet. Ce qui est remarquable, c'est le caractère extrêmement complet de ces archives. Elles sont chronologiquement très limitées, une 20aine d'années, mais ce qui fait leur prix, c'est le fait que presque tous les aspects de la civilisation mésopotamienne sont documentés, dans la vie religieuse, politique, culturelle, économique. On n'a quasiment pas de domaine qui échappe à ces archives, avec des dossiers particulièrement rares, comme la correspondance de musiciens, les lettres qui contiennent des prophéties. On peut apprendre comment on greffe un arbre, comment des chevaux blancs ont été installés dans la cour du palais de Marie, que sais-je encore. J'ai insisté sur l'aspect collectif de cette entreprise. Dernier point, quand est-ce que la publication de ces archives sera achevée ? Alors, c'est difficile à dire, mais on peut seulement tenter une projection. Si on garde le rythme d'environ 150 tablettes par an, qui est la moyenne de ces 30 dernières années, eh bien, il faudra sans doute quelque chose comme encore 25 à 30 ans, donc ça laisse de la marge. Mais vous verrez, dès la semaine prochaine, qu'on a d'ores et déjà de très nombreuses informations grâce aux archives de Marie qui permettent de s'intéresser à la façon dont les lettres étaient écrites, transportées et lues dans le Proche-Orient du XVIIIe siècle avant notre ère. Merci.